commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, non, juste un peu à droite, oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi.
Bonjour à toutes et à tous,
c'est l'heure de Big Bang
Station.
Nous sommes sur les
88 de la bande FM, faut le savoir et sachez-le, dites-lui autour de vous.
En Ile-de-France, le mercredi jusqu'à 22h sur IDFM, parce que maintenant nous sommes diffusés le mercredi à partir de 21h. Et sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts Big Bang
Station.
Big Bang Station, c'est depuis 25 ans un thème d'actualité auquel les chroniqueurs, politique, musique, cinéma, culture, histoire, coup de cœur, jeux vidéo colle le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons des journées européennes du patrimoine. Les journées européennes du patrimoine 2022 ont lieu le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre. Ces journées qui, au départ, étaient françaises, petit Manu.
Évidemment, comme je vous ai donné de très bonnes explications, tu as bien résumé comme d'habitude. Tu es vraiment incollable. Tu es très professionnel, Didier. Bravo.
Et que faire pendant ces deux journées? Heureusement, il y a Ophélie.
Ophélie. Effectivement, je vais vous parler de tous les programmes et surtout des endroits où vous pouvez retrouver le programme de votre ville et des alentours en France et même à l'étranger.
De nos jours, les lieux historiques sont désormais accessibles virtuellement. Bonsoir William, tu as choisi une innovation venant de Google pour accéder à des monuments historiques.
Effectivement Didier, et bonsoir tout le monde. Pour cette journée du patrimoine, j'en profite pour vous parler de l'Institut culturel de Google qui a pour but de rendre accessible la culture au plus grand nombre grâce aux visites virtuelles de lieux culturels. Dans ma chronique de cette semaine, nous allons découvrir ce site web en détail et les lieux qu'on peut retrouver dans celui-ci, hormis ceux cités dans ma chronique pour la journée des châteaux.
Et Pierre, lui, le patrimoine, il l'aime d'ailleurs, il le visite en ce moment même et nous livrera son ressenti. Bonjour Pierre.
Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, émission spéciale patrimoine, patrimoine qui est si cher à notre non moins cher Stéphane Bern, pardon, c'est dans quelques instants.
Et il n'y a pas que Pierre qui a son mot à dire. Hein. Marie-Ève répond au courrier / mail des auditeurs / auditrices.
Évidemment, et qui dit patrimoine dit château. Et qui dit château dit princesse. Et qui dit princesse dit... Bon allez, je vais pas tout vous faire maintenant. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Côté culture, la France a un très 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 beau patrimoine. Hein. Déjà musical, Kevin.
Tout à fait. Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. D'Edith Piaf à Henri Salvador en passant par Georges Brassens ou encore Serge Gainsbourg, ces chanteurs et chanteuses font partie de ceux qui ont bercé notre enfance, celle de nos parents ou de nos grands-parents. Et à ce sujet, je vous propose de revisiter le patrimoine de la chanson française.
Côté littérature, les artistes romantiques arrivent dans les années 1830 et bouleversent la vision du Moyen-Âge. Parmi eux, le plus célèbre fut
Victor Hugo, on arrive.
Vincent nous parle de son œuvre, Le Bossu de Notre-Dame. Et on terminera cette émission par un mot de politique. Comment se porte le tourisme en France après la crise du Covid, Ronan?
Tout à fait, Didier. Le tourisme est une activité importante en France, mais le secteur a été fortement impacté par la crise du Covid-19. Comment se porte-t-il aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure.
Et l'émission est réalisée par Léo.
Léo. Il assure. Il est beau.
Merci,
ça va, Léo?
Merci.
Oh, il approuve. C'est bien, il y a du répondant, quoi. Didier, on redonne la parole. Fidèle au poste.
Les journées européennes du patrimoine 2022, c'est le thème de notre émission. Elles commencent le samedi 17 septembre et finissent le dimanche 18 septembre. Hein, c'est qu'un week-end, comme d'habitude. Et c'est là, combienième d'édition, à votre avis?
Là, 25e.
Plus.
30e.
Oui, un certain nombre.
Plus, c'est moins que l'âge de...
50e.
Non, c'est moins que l'âge de petit Manu.
Oh non, mais moi, je me sens pas concerné.
40e.
50e, non.
39e,
exactement. Bravo.
Oh là là, incollable, vraiment super.
Les journées européennes qui, vous allez le voir ou plutôt l'entendre, étaient françaises au départ, petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Hillary Clinton. David Bouillet. Joe Cocker.
Justine Tiberlin.
Lady Dada.
Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux. Non.
Tous les quoi?
Alors, les journées européennes du patrimoine, après les la bonne introduction de Didier, sont des manifestations internationales et annuelles. La découverte de nombreux et différents autres lieux ne sont souvent exceptionnellement ouverts au public, des musées et de l'accès deviennent exceptionnellement gratuits et prix réduits. À votre avis, c'était créé en combien en France?
Ben, il y a 39 ans.
Eh ben,
1973 ou 1983.
Ah, t'es pas loin, 1984, décidément.
Ah, d'accord.
T'étais pas loin. En 1984, cet événement a lieu dans une cinquantaine de pays. Les premières journées européennes du patrimoine ont été lancées le 23 septembre 1984. Effectivement, comme tu as très bien dit, le ministère de la Culture français a eu l'initiative par Jacques Lang, ou dans ses bureaux sont dans le cinquième. Maintenant, faut savoir.
Sous la présidence de François Mitterrand.
Effectivement, sous le nom de la journée ouverte de monument historique. Le troisième dimanche de septembre. À la suite de ce succès, le 3 octobre 1985, à Grenade, au cours de la deuxième conférence du Conseil de l'Europe entre les ministres responsables patrimoine architectural, Jacques Lang propose d'étendre l'initiative au niveau européen. Plusieurs pays, comme les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte, la Belgique, le Royaume-Uni, en Écosse et la Suède, organisent rapidement des journées similaires. En 1991, donc plus récent, le Conseil de l'Europe institue officiellement la Journée européenne du patrimoine. En 1991, Taïwan, c'est une ville asiatique, imite.
Non.
Taïwan, voilà. Taïwan.
C'est pas une ville. Hein.
Non, c'est un pays plutôt, je me trompe. Ça imite les 47 pays déjà associés à la manifestation et pourtant toujours qualifiés d'européennes. Et en 1982, la Turquie, créée par la même manifestation que les autres pays européens, Didier. Tout ce qu'il faut savoir. Hein. Et ce qui est formidable, on peut savoir que la journée du patrimoine, c'est vrai que c'est pas tellement cher et on peut aller visiter des pays, on peut visiter des expositions, c'est le jour J, c'est un bon jour, mais c'est vrai qu'après faut faire la queue parce que on a tendance à se lever de bonne heure, quoi. Donc il y a la journée du patrimoine, les musées, on peut même aller voir l'Élysée aussi, donc tous ceux qui ont la patience, et ben c'est le jour J pour y aller aussi, c'est le bon jour J pour y aller, quoi.
Merci Petit Manu, et c'est l'heure de savoir quoi faire durant ces deux journées. Ophélie a sélectionné pour vous, a travaillé beaucoup sur le sujet pour vous en sortir le meilleur. Notre nouvelle chroniqueuse Ophélie.
Attention, concentration maximale.
Petit Manu est très fier, pour une fois il connaît le président ukrainien.
Non mais là,
on parle que de lui.
Oui, bah je sais, mais pour
il s'appelle comment?
C'est un certain président, le président.
Bon, mais il a un nom et un prénom.
Oui, Vladimir Poutine.
Non, t'as dit qui?
Zelensky.
C'est pas vrai.
Ophélie va nous parler de sortie.
On est capté, vraiment médusé. Vous rendez bien compte en l'écoutant.
T'es bourré?
Non, ému. À quelque chose, hein.
Chaque année, les collectivités mettent en avant leur patrimoine avec des visites guidées de lieux prestigieux, des ateliers créatifs et artistiques, des jeux de piste pour partir à la découverte des sites historiques de la ville. Je rappelle que ces événements sont en majorité tout public, une bonne raison pour sortir en famille. Pour cette occasion, les plus beaux monuments s'offrent à vous à Paris, en Ile-de-France, dans toute la France et dans l'Europe, puisque cet événement s'intitule les Journées européennes du patrimoine. Et cette année, vous connaissez le thème de cette année?
Oh, mais il y en a plusieurs.
Si Manu devrait le connaître parce qu'il en a parlé.
Ah bah oui, on peut aller voir les monuments. On peut
non,
aller
c'est
voir
pas un thème.
Le thème global de ces Journées du patrimoine pour 2022. Alors il s'agit du patrimoine durable.
Ah bah voilà. Tu vois comme quoi.
Voilà, c'est ça. Donc,
très à la mode.
Très simple, c'est
très à la mode.
Oui.
Exactement ça. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du gouvernement, journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr. C'est très simple. Le site vous propose une carte interactive. Zoomez sur la zone qui vous intéresse et vous aurez des propositions d'événements avec les détails, donc horaires, lieux, type de public, etc. Alors, comme tout n'est pas répertorié, je vous conseille de vous rendre en parallèle sur les sites des mairies pour découvrir le programme complet. Un autre conseil, certains événements nécessitent une inscription car les places sont limitées. Pensez à vous renseigner en amont. Quelques exemples de sorties dans le Val d'Oise. Sur les hauteurs de Montmorency, des nouveautés cette année, la visite de la ville en réalité augmentée et un ballet en plein air avec le conservatoire de la ville. À Comény, un charmant village du Val d'Oise, petite commune du Vexin français qui compte parmi ses trésors une ferme vieille de plus de 4 siècles, une église classée monument historique et un musée du pain, un lieu historique et pédagogique. Ce musée, situé dans l'ancien grenier à farine d'une boulangerie, toujours en activité, accueille les curieux et les gourmands et propose des visites dédiées à l'histoire du pain. Je ne sais pas pour vous, mais visiter une boulangerie et manger du bon pain, ça m'intéresse. D'ailleurs, je pense que je vais réserver.
Et tu dis qu'il y a de recours.
Exactement. Et en Haute-Corse, à Corbara, vous pouvez assister à un spectacle son et lumière intitulé « Corbara dans le secret des pierres ». Pour finir, un petit tour en Belgique. Ces journées européennes du patrimoine ont eu lieu les 10 et 11 septembre sous le thème patrimoine et innovation. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce n'est pas le même thème? Eh bien, le thème n'est pas obligatoire, donc il peut être changé selon...
Ah ouais.
Voilà, exactement. Un exemple, à Charleroi, le 20e anniversaire du Bois du Casier, qui est un lieu d'innovation technologique. Il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et labellisé par l'Union Européenne. Le Bois du Casier est un lieu incontournable sur fond de patrimoine industriel. On y présente une machine à vapeur miniature et des dynamos électriques. Si vous souhaitez retrouver les journées européennes du patrimoine sur les réseaux sociaux, cherchez le hashtag JEP et profitez-en pour partager votre expérience et vos photos.
Merci Ophélie. De nos jours, tu l'as dit, les lieux historiques sont aussi accessibles virtuellement, notamment avec la VR, la réalité virtuelle. D'ailleurs, le marché mondial de la réalité virtuelle valait près de 5 milliards de dollars en 2020 d'après Global Data. Et la réalité virtuelle deviendra un marché de 51 milliards de dollars d'ici 2030, toujours d'après Global Data. William n'a pas choisi de vous parler de la réalité virtuelle parce qu'il en avait déjà parlé pour l'émission sur les châteaux. Il bosse un peu, hein, il change de thème. Il a choisi une innovation venant de Google pour accéder à des monuments historiques facilement. William est connecté jusqu'au bout des doigts.
Ce soir, dans ma chronique high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions.
Appli Objet Connecté, retrouvez la sélection de William.
Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours ?
Basé à Paris, l'Institut culturel de Google a été créé en 2011. Sur sa présentation, il cherche à faciliter l'accès à la culture ainsi que la préserver numériquement pour éduquer et inspirer les générations futures. Pour ce faire, l'Institut a conclu des partenariats avec de nombreuses institutions culturelles, dont le British Museum ou encore le Musée de l'Histoire Polonaise, pour mettre à disposition des archives ainsi que des œuvres d'art, et ce, gratuitement. Dans la capture de ces archives, qui sont au nombre de plusieurs millions, des outils technologiques innovants sont utilisés, dont la vision à 360 degrés et des appareils photo sophistiqués. Avec ces technologies, on peut admirer les œuvres d'art de plus près et les voir de manière réaliste. Pour accéder au service de l'Institut culturel, il suffit d'accéder au site dédié Google Agriculture. Sur le site, on retrouve de nombreuses expositions virtuelles et récemment, il y a une exposition sur Elisabeth II avec un grand nombre de photos et de portraits de la défunte reine d'Angleterre. Également, certains lieux culturels sont accessibles en visite virtuelle comme par exemple la Philharmonie de Paris, mais aussi le musée du Quai Branly via la fonctionnalité Street View qui est notamment utilisée sur Google Maps, l'outil GPS du moteur de recherche. Le musée du Louvre est aussi présent sur Google Agriculture avec plus de 1200 archives. De plus, certains endroits historiques ont leurs tableaux sur le site comme la Place de la République ou encore le Palais Royal. Hormis les expositions et les visites virtuelles, le site de l'Institut culturel de Google propose des mini-jeux pour faire de la musique, tester ses connaissances culturelles, faire du dessin et explorer des lieux dans le monde avec le groupe de K-pop BTS. Dans un objectif d'innovation, deux salariés de l'Institut ont conçu le Google Cardboard, un casque de réalité virtuelle en carton qui fut lancé en 2014, ce qui est utile pour visiter virtuellement des musées. Pour clôturer cette chronique, je tiens à dire que l'Institut culturel de Google et son site font un travail utile pour faciliter l'accès à la culture, notamment pour les pays du tiers-monde et les gens issus des milieux défavorisés. C'est tout pour moi, cultivez-vous par la culture et je rends le micro.
Merci William. Et Pierre fait une pause dans sa visite, nous l'avons au téléphone. Alors Pierre, qu'est-ce que t'en penses de ces journées européennes du patrimoine ?
Eh ben moi j'en pense que du bien, je trouve ça bien qu'on parle un peu de notre patrimoine, culture, je trouve ça bien.
Sport, exploit, record.
C'est un record de longévité, mais c'est pendant 27 heures, 3 minutes et 44 secondes. Le précédent record était de 26 heures. Il a interprété 300 morceaux, de Gershwin à Britney Spears, en passant par Beethoven et le Gangnam Style de Psy.
Pierre nous parlera performance.
Pierre qui roule, Navas, pas mousse.
Et Manu, si t'as rien à dire, tu peux rien dire.
Il pose une question, j'essaie de répondre. Non. Un peu d'imagination.
Ah, le patrimoine, c'est important, le patrimoine. Car le patrimoine, en réalité, c'est plein de choses. C'est le patrimoine génétique, le patrimoine culturel, le patrimoine économique, le patrimoine industriel, le patrimoine géographique, le patrimoine linguistique, et bien d'autres encore. Le patrimoine, c'est à la fois l'histoire, donc le passé, mais c'est également le présent. Et ça nous sert à bâtir le futur. C'est donc à la fois un marqueur temporel et un marqueur géographique. Un bel exemple est notre belle langue française. Savez-vous comment s'est bâtie la langue française, les amis ?
Pas du tout.
Non, non.
Vous saviez pas ? Bon, bah, je vous explique rapidement, on va faire bref, parce qu'il y a quand même 2000 ans d'histoire. La langue française est un savant mélange historique de la langue d'oc, qui était parlée dans le sud, d'où la région française éponyme, et de la langue d'oïl, qui elle était parlée dans le nord de la France. C'est un savant mélange également de celte, d'arabe, de saxe, de latin, de latin.
Ouais, je me suis dit là, c'est un peu bizarre là.
Savez-vous quelle est la particularité de la langue d'oïl et de la langue d'oc ? Pourquoi il y avait ces deux langues qui étaient différentes et quelles étaient leurs particularités ?
Alors là,
ah, tu nous poses une colle.
La langue d'oc, comme nous le font si bien entendre les gens du sud, consiste à prononcer toutes les syllabes et toutes les lettres d'un mot, alors que la langue d'oïl élimine des syllabes ou des lettres d'un mot. Exemple en live avec une phrase simple. Dans le sud, on aura plutôt tendance à dire « ouvre la fenêtre », alors que chez moi en Normandie, donc plutôt au nord, nous aurons tendance à dire « ouvre la fenêtre ». Les R ont disparu en fait.
Ah,
il fallait savoir, n'empêche, hein, c'est, alors là, tu nous apprends quelque chose, Pierre, waouh!
Mais le patrimoine, c'est également les monuments, c'est Versailles, le Mont-Saint-Michel, qui est bien normand, hein, désolé les Bretons, c'est officiellement à nous,
oui.
Quoi que vous en disiez et quoi que vous en pensiez.
Oui, oui, oui.
C'est aussi le Colorado provençal, les volcans d'Auvergne, les calanques marseillaises, les plages du débarquement, qui, vous savez, me sont assez chères. Ce sont les châteaux de Chambord, les terrils du nord, les manades du sud. Et surtout, c'est la bouffe, la ripaille, la vinasse, le rougeau, la bibine, les vignes, les fromages, les bovins, les ovins, les huîtres, la volaille. N'oubliez pas également, car on nous moralise souvent sur l'histoire de la France en disant « ça c'était pas bien, ça c'était pas bien non plus ». Quoi qu'on en dise, il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, la France était quand même la moitié du monde, les amis. C'était une grande partie de l'Europe, une majorité de l'Afrique, un peu l'Asie, la Polynésie et les Antilles. Mmh. À tel point que la France était surnommée la Chine de l'Europe, pour son étendue, hein, pas par rapport au patrimoine culturel, évidemment. Nous l'avons oublié, mais nous pouvons être fiers, je pense, de notre pays. Patrie de la démocratie et des droits de l'homme, patrie des philosophes, de lumière, patrie d'écrivains célèbres, de guerriers célèbres, d'architectes célèbres, de colons célèbres, de musiciens célèbres, de sculpteurs célèbres, de chanteurs célèbres, de sportifs célèbres, et j'en oublie. Bref, nous avons oublié que la France est une grande nation faite de partage, de rencontres et de cohabitation, que notre pays a contribué grandement à l'histoire de cette petite planète. Alors certes, dans cette immensité, nous ne sommes pas grand-chose, mais tout de même, soyons fiers de nos origines, soyons fiers de notre histoire, soyons fiers de notre langue, soyons fiers de notre pays, soyons fiers de notre patrimoine. Juste, soyons fiers. À samedi prochain, les copains.
Merci Pierre. Et Marie-Ève aussi a son mot à dire. Bah tiens, qui dit patrimoine dit château. Et qui de mieux pour nous donner sa vision sur le monde des châteaux que notre princesse Marie-Ève ? Chaque semaine, découvrez le courrier des auditeurs.
Un premier mail de Leonardo D.
Oh mais Leonardo, c'est trop mignon ça.
Retrouvez la minute timbrée de Marie-Ève.
Suite à votre dernière commande, profitez de moins 20% sur passagedudésir.com. Ah oui, ça c'est petit Manu qui m'avait demandé de commander un truc pour une amie.
Non, Marie-Ève.
Et oui, salut les petits loups et bienvenue au courrier des...
auditeurs.
C'est au mail de Lancelot du L que je vais répondre aujourd'hui. Hello Marie-Ève, j'ai une passion pour les châteaux, et toi, qu'en penses-tu ? Eh ben, salut Lancelot. Écoute, c'est drôle que tu me poses cette question. J'adore les châteaux. J'aime les châteaux parce que je trouve qu'ils sont emblématiques de notre patrimoine. On a la chance d'avoir les plus beaux monuments historiques en France. Non mais c'est vrai. Je crois qu'on peut dire que la France est le plus beau pays du monde.
Ah oui.
Merci. Oui, bah oui. Je suis patriote. Je sais. Mais vous aussi visiblement. Donc ça me va très bien. Le château de Versailles. Quelle merveille avec ses 2300 pièces, 67 escaliers, 352 cheminées, 2153 fenêtres et sa fameuse galerie des glaces avec 357 miroirs. Ouais, 357 miroirs.
Bonjour le ménage.
Ah ouais. Avec ça, t'as de quoi vérifier que t'es bien sapé. Oh miroir, dis-moi qui est la plus belle. Dans Blanche-Neige, c'est les sept nains, vous l'avez bien reconnu. C'est la méchante reine sorcière qui pose cette fameuse question tous les jours à son miroir. Et tous les soirs, il lui répond quoi ? C'est toi ma reine. Jusqu'au jour où une jeune et innocente Blanche-Neige fait son apparition. Et là, c'est la cata. Elle se fait voler sa place de Miss France. Dans le dessin animé, je n'ai jamais compris, vu sa tête à la sorcière, comment elle avait fait pour avoir été couronnée toutes
mais
ces
oui,
années.
Mais moi aussi.
Bah oui.
C'est encore un grand mystère de ma vie. À 5 ans, je me suis posé la question, je me la pose encore. Mais qu'importe. Ce qu'on retiendra de ce film, c'est que les femmes sont plus belles quand elles sont jeunes et fraîches. Et en plus, jalouses entre elles. Il est beau le message envoyé à nos enfants, tiens. Mais attends, tâchons de nous remonter le moral en parlant du prince charmant. Et oui, dans les contes, il y a toujours un prince charmant, un beau et fort prince qui vient sauver les femmes dans leur détresse et même de la mort. Blanche-Neige, elle était dans un sacré coma avant que son prince vienne la réveiller avec un baiser, si vous voyez ce que je veux dire. La Belle au Bois Dormant aussi, elle l'attendait.
Elle roupillait
sec. Ce sont les princes qui sont venus les sauver de leur détresse. Mais quel message retenir de tout ça ? Les hommes sauvent-ils les femmes ? Sans les hommes, les femmes ne peuvent-elles pas survivre ? Moi, c'est marrant, dans mon quotidien, j'ai pas cette impression-là. J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Ma meilleure amie, Anso, si elle m'entend, je l'embrasse. Si elle n'était pas là, je pense que ses trois enfants mouraient de faim et son mari avec. La dernière fois qu'ils m'ont invité à dîner, son mari a accepté de faire à manger. Il a préparé un Deliveroo. Mon ex, Nico, si je n'avais pas été là, serait mort étouffé sous ses caleçons sales. Ça, j'en suis sûre, c'est moi qui vous le dis.
Et regarde Marge Simpson. Bon, elle n'existe pas, mais quand même.
Elle est emblématique. Et mon père. Mon père.
Ah, ton papa.
Il a tellement besoin de femmes pour survivre qu'il en a eu trois et une cinquantaine en backup à côté.
D'accord.
Réponse, elle aussi, elle attend en haut d'une tour qu'on vienne la sauver, que son prince la libère. Mais moi, j'ai pas du tout envie qu'on vienne me déranger chez moi. Non, mais c'est vrai. Quand je suis tranquille devant Koh-Lanta avec ma boîte de sushi, j'ai pas du tout envie qu'on vienne crier à ma fenêtre. Ne t'inquiète pas, jeune demoiselle. Marie-Ève, je vais te sortir de là.
Oui, mais Marie-Ève, l'autre fois, en fait, c'est vrai qu'il y avait un mec qui avait grimpé chez toi.
Ah bon?
Bah, c'était pour te cambrioler. Donc là, je comprends que tu l'aies foutu dehors.
Ah, oui. Et puis il y a les petits Manu, encore une fois. Mais
bon, non, moi, pas concerné. Moi, j'apprends ça à l'instant.
Bon, allez, on dira pas à l'antenne, petit Manu.
Moi, pas du tout. Moi, je suis honnête. Je t'écoute avec grande attention. Hein. Oh là là. J'ai bien te laisser parler. Hein.
J'imagine que le gars pourrait dire, mais non, je vais te sortir, regarde pas la télé, seul chez toi, je vais t'emmener au cinéma. Mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller au cinéma. Je viens de me prendre un abonnement OCS en plus. Alors laissez-moi vous dire que j'ai pas terminé la saison 2 d'Euphoria.
Qui va te rajouter un mois gratuit.
Un mois.
En plus.
Comme le fameux diffuseur avec la pastille verte qui nous écoute et qui va nous donner à tous les chroniqueurs et les animateurs que tu es un mois gratuit, n'est-ce pas? On peut toujours rêver, ça fait plaisir. Moi, je n'ai pas envie qu'on vienne me sauver de quoi que ce soit. Mais alors, est-ce que je suis quand même une princesse?
Oui.
Oui. Oh ben oui.
Est-ce que je peux être une princesse sans château? Une princesse sans prince? Est-ce que je peux être une princesse qui aime les femmes? Une princesse qui préférerait peut-être être seule plutôt qu'à deux?
Que mal accompagnée.
Que mal accompagnée, exactement. Est-ce que je peux être une princesse qui gagne mieux que son prince?
Oui, bah oui.
La question reste posée.
Les choses changent. Madonna avait fait des contes pour enfants complètement différents. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années.
Ah non, je ne sais pas ça.
Elle avait fait des contes avec des princes et des princesses différents.
Bah regarde, le chanteur Grégoire, c'est pareil. Depuis qu'il est devenu papa, il a fait des contes pour les enfants aussi. Grégoire.
Oui, mais classique.
Ah, c'est vrai.
Madonna un peu moins classique.
Ah, c'est vrai, plus modernisé.
Un peu plus hardcore.
On est d'accord.
Eh bien, mesdames, vous qui nous écoutez en ce moment même, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons repris notre pouvoir et que l'époque de Grimm est bel et bien terminée.
Ouais.
Nous nous sommes toutes des princesses. Et désolé, ça a beau être la journée des châteaux, eh bien c'est pas un château qui changera la donne pour nous mesdames. Et c'est pour ça que je vais vous demander à toutes de m'écrire pour la semaine prochaine sur l'adresse que vous connaissez, qui est marielasainteevelapecheresse@gmail.com. Des bisous mes princesses.
Bravo.
Ouais. Je peux dire quelque chose?
Dis-moi Manu.
Je sais pas si t'es une princesse, je dirais sans hésitation, t'es une reine.
Oh, oh Manu.
Et Marie-Ève, est-ce que nous on est des princes?
Bien sûr, vous êtes mes princes.
Ouais. Oh merci.
Ah ouais, t'es vous êtes tous.
Il y a un chevalier, un dragon et un troubadour et un prince.
Voilà.
On dira pas qui.
On dira pas qui. Oh, on
non,
coller.
Ici il y a que des princes et des rois. Tu es un peu notre roi en fait.
Ah c'est vrai. T'as quelque chose de très beau. Oh là là, qui dégage.
Notre roi. King, on
bien que petit Manu soit notre seigneur.
Oh oui.
Merci Marie-Ève. D'Edith Piaf à Henri Salvador, en passant par Georges Brassens ou encore Serge Gainsbourg, ces chanteurs et chanteuses font partie de ceux qui ont bercé notre enfance, celle de nos parents ou de nos grands-parents. Kevin vous propose de revisiter le patrimoine de la chanson française grâce à son quiz.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz, attends. Quiz. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais
Et c'est parti pour un quiz spécial patrimoine de la chanson française avec 5 titres et à vous de reconnaître de quel chanteur ou chanteuse il s'agit.
Petit Manu va être fort.
Bon, bah, je pense que oui.
Ah, ouais. C'est le seul qui est né.
On verra bien. Vous êtes là aussi, messieurs, Lio, Didier.
C'est ça ce qui était né sur toutes les chansons qu'on va écouter.
Eh ben, on va bien voir. On va découvrir.
Alors on commence par une chanteuse. Là, je pense que tu vas trouver. Qui est-elle?
Non.
Edith Piaf.
Oui.
Même dans le 20e, il y avait même. J'ai même été au café à Piaf. Edith Piaf, on m'a présenté justement. Oh là là.
On t'a présenté à la place?
Non, le café où elle était. Et il y a même une pièce dans le 20e. C'est Edith Piaf aussi. Oh là là.
Alors moi, je laisserai chanter petit Manu sur cette chanson.
Oh, pas du tout.
Allez.
Oh non.
1, 2. Et attention, 1, 2.
Non.
Allez.
Non.
Oh, rien.
Non.
Je regrette rien.
Bravo.
Voilà. On respecte, c'était une grande dame. Et puis aussi, quelqu'un qui a beaucoup aimé, c'était un amour un peu très dur, mais qui l'a jamais encouragé, monsieur Charles Dumont. Ah oui, on lui dit un peu bonjour parce qu'il a beaucoup aimé Edith Piaf. Au début, il a dit, je vais pas le laisser faire. Puis il s'est imposé et vraiment...
Tu as cité Charles Dumont.
Tout à fait.
Bah, on peut dire que t'es connaisseur parce que c'est lui qui a composé cette chanson.
Ah bah, justement. Tu vois. Et puis, au début, il était très connaissant d'Edith Piaf. Il a dit, il s'est jamais laissé faire, hein. Et puis, il a été obstiné au lui dire un grand bonjour parce que je voyais à un moment, j'étais là à ta place avec un certain Michel, j'étais à ta place. Il est venu et c'est quelqu'un d'une grande gentillesse. S'il nous écoute, bonjour Charles, quoi. On lui dit bonjour, cher Didier, hein.
Alors, c'est une chanson qui est sortie le 10 novembre 1960. Et c'est, on va dire, incontestablement l'une des chansons les plus célèbres d'Edith Piaf, au même titre que l'hymne à l'amour.
Complètement.
Que tu peux chanter peut-être.
Oh non. Respect. Oh là là. Faut aller voir sur internet, YouTube. Chacun, on n'est jamais eu servi par soi-même. Oh là là là. Il risque de se mettre à pleuvoir sinon.
Et perd son âme.
Évidemment.
On passe à notre chanteur français. Qui est-il?
Une chanson douce que me chantait ma maman.
C'est qui chantait ça, petit Manu?
Un certain Henri
Salvador. Oui.
Il avait des très beaux costumes blancs. Il était entouré de très belles femmes aussi. Oh là là.
C'était aussi un bel homme. Hein.
Voilà. Et je crois, si je dis pas n'importe quoi, son papa, c'était Jean-François Perrier, il me semble. Oui, c'est son papa, Jean-François Perrier, qui fait des. À l'époque de Johnny, François. Oui, c'est vrai.
Et j'ai un doute. Mais
ah oui, mais je crois.
C'est son fils.
Ah, c'est son fils. Voilà. C'est son, oui. son père. Et bien, il fait des photos. Non, c'était à l'époque de Sylvie, de Johnny. Et il date d'un certain temps, quoi. Monsieur Jean-François. Alors, Monsieur François Perrier.
Alors, Henri Salvador, qui nous a quittés malheureusement le 13 février 2008. Alors, cette chanson s'intitule Le loup, la biche et le chevalier. Mais on l'appelle souvent une chanson douce.
Ah, complètement.
Une chanson de 1950.
Ah, il était pas né, petit mec.
Ah, bah, si, mais moi j'aimais ça.
Ah, si, pardon.
J'aimais bien. T'as pas été bercé à cette
chanson. Oh, les dates en fait.
T'as pas été. T'as
toi qui es bercé à cette chanson-là. Bah, ça m'a fait des enfants quand j'ai dit.
Non, pieds. Non, non, moi, c'était plutôt l'époque de Dorothée, Chantal Goya.
Bah, moi aussi, mais cette chanson, moi, j'aimais bien.
Toi, c'était l'époque d'Henri Salvador.
Bon. Oui, mais j'avais aussi aimé Dorothée aussi. Le Marco aussi.
Oui, bah, toi, t'es déjà adulte.
Oh quand non, j'étais Dorothée. Quand j'étais petit enfant, comme vous disiez, ça. Non, mais c'est vrai qu'il chantait.
Il avait déjà 40 ans.
Non, 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 pas du tout. C'est vrai qu'il avait toujours des très beaux costumes blancs.
Et on passe à un autre chanteur. Qui est-il à votre avis?
Ne me quitte pas. Il faut oublier.
Un certain Jacques Brel.
Oui, Jacques Brel.
Et puis quand il chantait, il transpirait, il faisait pas semblant. C'est pas des larmes de crocodile.
Bah quand tu fais tes chroniques aussi, hein.
Ah ouais, mais.
Ah, c'est vrai ça, hein.
Ah non, mais quand on voyait, il transpirait, c'était ouf.
Il faisait ça avec ses tripes.
Exactement. Et puis il a même fait un film avec le nouveau Ventura, L'Emmerdeur. Oublié. Franchement, aussi très comédien. Il était, enfin, aussi un comédien.
Oui, il était comédien, effectivement, aussi, Jacques Brel.
Ah, tout à fait.
Alors cette chanson, qui j'ai envie de dire, on ne présente presque plus, hein, Ne me quitte pas, chanson de 1959 qui évoque une séparation entre Jacques Brel et sa maîtresse Suzanne Gabriello.
Voilà.
Il était amoureux d'elle depuis 55.
Certain temps, quoi.
Jacques Brel qui nous a quittés en 1978. Et on passe à un autre chanteur qui nous a quittés, mais il y a presque 4 ans. Qui est-il?
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Il avait les cheveux blancs.
Il paraît qu'il avait ses habitudes. Monsieur Charles.
Quelles habitudes?
C'est-à-dire que quand il partait en concert, il avait toujours le même chemin, le même parcours. Toujours très poli. Un certain Charles.
Charles Brel, effectivement.
Non, un certain.
Oh, pardon.
Non, un certain Charles Brel.
Le mix, ouais.
Charles Aznavour.
Oh, t'as fait l'absus. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Et, monsieur Charles.
C'est la preuve que ce sont deux monuments de la chanson française.
Exactement. Puis vraiment, balèzes, ils sont là depuis. Oh là là.
Alors, Charles Aznavour qui nous a malheureusement quitté le 1er octobre 2018 avec cette chanson La Bohème, chanson de 1966, une grande chanson de Charles Aznavour parmi tant d'autres.
C'est vrai.
Et on termine avec un autre monument de la chanson française, qui est-il?
Et maintenant, que vais-je faire?
Il y a tellement de versions. C'est pas un certain Gilbert?
Gilbert, oui.
Beco?
Oui.
Qui a vécu sur une péniche, qui avait beaucoup d'enfants, et on l'appelait Monsieur Sommelvoss, parce qu'il fallait pas lui chercher les poux de la tête, sinon, oh là là, regarde, on passait un bon moment. Et il a fait beaucoup l'Olympia, quoi. Eh ouais. Monsieur Gilbert Beco, quoi.
Alors Gilbert Beco avec ce titre Et maintenant, chanson de 1961. Gilbert Beco qui nous a quitté le 18 décembre 2001. Et il y a une version de ce titre qui est vraiment, on va dire, touchante. C'est celle de Grégory Lemarchal.
Ah, tout à fait, oui, Starac, il avait gagné aussi.
Oui, ouais, voilà, il avait repris cette chanson. Et moi, j'adore vraiment à la fin la manière dont il crie ce fameux rien.
Et vous savez pourquoi il dit? Bah, j'ai entendu plusieurs fois parce que ça m'a intrigué. Il paraît qu'il s'est libéré de toute la puissance qu'il avait, parce qu'il était là, il s'est libéré, il a.
Tu parles de qui?
Bah, de Grégory Lemarchal, oui. Évidemment. Je répète ce qu'il a dit, parce qu'il était conscient, mais il reste sous. Même sa mère était là, et il disait, il s'est libéré de toute la puissance qu'il a. Et c'est ce qu'il dit.
C'est ça qui est remarquable, parce que c'est aussi dit, Grégory Lemarchal était atteint, malheureusement, de la mucoviscidose, et vraiment, il mettait vraiment toute son énergie et sa puissance dans sa façon de chanter. Il était très talentueux.
Ah, ouais. Et vous savez comment il s'appelle? On me l'a dit, vous savez comment ça? Parce que c'est un pseudonyme, Gilbert Beco. Vous savez, c'est qui? Vous savez, c'était quoi son véritable prénom?
Quoi?
Ah, Gilbert Beco.
Oui,
c'est qui? Eh bien, il s'appelle, c'est Michel qui me l'a dit, je te dis, hein. Monsieur François Silly.
François Silly.
Silly, oui.
Silly.
François Silly, oui, c'est son véritable nom. Et Gilbert Beco, c'est un nom d'emprunt, quoi.
Ah, d'accord.
Et puis, il a fait une très belle chanson par la suite après. Et Nathalie, par rapport à sa fille Nathalie aussi, c'est monsieur François Silly, un grand bonjour à Michel, qui m'a dit ça, je te tiens au courant. Il s'appelle monsieur François Silly. Voilà. Faut savoir, quoi.
Eh ben, t'as de grandes connaissances, Manu. Oh, je suis flatté.
Tu sais qu'à un moment, j'étais là, il y a un super animateur, j'étais un peu comme mon professeur. Des fois, je me faisais engueuler et il m'apprenait des tas de choses. C'est comme ça. Un grand bonjour à Michel, s'il nous entend. Coucou amical.
Michel Varenne.
Exactement. On le salue amicalement. Voilà. Et il y a des grandes connaissances. J'étais à ta place, hein. Des fois, je me faisais engueuler. Mais qui aime bien, châtie bien. Grand bonjour à Michel Varenne. On est à grand bonjour.
Merci. Merci, Manu. Merci. Merci à tous.
Bah merci Kevin, tu nous as donné envie de replonger dans notre patrimoine français. Quel titre voulez-vous écouter? Allez, petit Manu, choisis.
Eh ben, on peut penser, est-ce que tu es d'accord?
Parce que petit Manu est notre patrimoine.
Oh, mais non, oui, mais, bah non,
c'est
mais
vrai,
non,
c'est vrai. T'es, t'es là depuis le plus longtemps.
Mais non, mais c'est Didier le créateur.
Alors,
moi,
je suis là avant, mais petit Manu est le plus âgé. T'es notre père, notre grand-père, t'es tout pour nous.
Eh, on peut, madame Edith Piaf, quand même. Voilà la chanson, la première chanson.
Edith Piaf, voilà. Non, je ne regrette rien.
Une grande dame aussi, oh là là.
Non, elle était petite.
Oui, oui, mais grand par le talent. Enfin,
grande, oh, oui, par le talent, effectivement.
Puis l'audace, ce qu'elle chantait, oh là là. On va pleurer bientôt d'émotion. Hein.
Edith Piaf, non, je ne regrette rien.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Edith Piaf, non, je ne regrette rien. D'ailleurs, Edith Piaf qui a inspiré aussi la jeune génération hein, de chanteurs et chanteuses français.
Ouais, et puis je crois qu'aussi, même aussi, il l'a souvent dit, Patrick Bruel a souvent chanté ses chansons, a fait des reprises aussi. Il en parle toujours avec grand talent aussi. Et bien d'autres aussi.
Au début du 19e siècle, la protection du patrimoine connaissait ses premières structures, mais la sombre période du Moyen-Âge restait honnie dans l'histoire nationale. Les artistes romantiques arrivent dans les années 1830 et bouleverse la vision de ces temps. Parmi eux, le plus célèbre fut Victor Hugo. Vincent nous parle de son œuvre, Le Bossu de Notre-Dame. De la culture dans Big Bang.
C'est cela, oui, oui, oui.
Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien. Le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours.
Ah, c'est pas mal, quoi. Ah.
Salut Didier, cher collègue. Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien. Nous parlons en ce jour appesanti par l'histoire d'une idée, pourtant tout à fait nouvelle à l'échelle du temps, le patrimoine. Incarnation de pierre de ce que disait notre cher Ernest Renan dans l'auguste arène de la Sorbonne. Une nation, c'est deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu in divis. Cet héritage, ce riche legs de souvenirs, c'est précisément le patrimoine qui les incarne. Ces vieilles pierres, au fond, sont les piliers d'une nation que nous formons toutes et tous, plus ou moins consciemment. Ainsi, nous parlons pour les bâtiments historiques de monuments, au sens où ils portent une mémoire collective. Et un événement a réveillé cette conscience, ce sentiment d'unité par-delà les philosophies et les confessions. Chose rare, l'incendie qui frappa Notre-Dame émut la France entière. Alors parlons-en. Et bien entendu de son plus éloquent avocat, Victor Hugo, auteur d'un ouvrage magistral sur ce noble édifice. Publié en 1831, Notre-Dame de Paris a été complétée d'une note de son auteur l'année suivante. Victor Hugo y expose ses motivations, qui résonnent avec son temps. Les débuts de la monarchie de Juillet sont marqués par la création des premières mesures de protection des monuments historiques. Alors, écoutons l'auteur. Quel que soit l'avenir de l'architecture, de quelque façon que nos jeunes architectes résolvent un jour la question de leur art, en attendant les monuments nouveaux, conservons les monuments anciens. Inspirons, s'il est possible, à la nation l'amour de l'architecture nationale. C'est là, l'auteur le déclare, un des buts principaux de sa vie. Cher auditeur, oui, toi, lecteur peut-être de son œuvre, spectateur assurément de l'adaptation de Disney, l'on peut dire que ce grand objectif est rempli. Mais précisons la pensée d'Hugo et son combat pour l'architecture médiévale, méprisée et ravagée par ses contemporains. Notre-Dame de Paris a peut-être ouvert quelques perspectives vraies sur l'art du Moyen-Âge, sur cet art merveilleux. Jusqu'à présent, inconnu des uns et, ce qui est pire encore, méconnu des autres. L'auteur a déjà plaidé, dans plus d'une occasion, la cause de notre vieille architecture. Il a déjà dénoncé à haute voix bien des profanations, bien des démolitions, bien des impiétés. Il ne se lassera pas, car c'est une chose affligeante de voir en quelles mains l'architecture du Moyen-Âge est tombée et de quelle façon les gâcheurs de plâtre d'à présent traite la ruine de ce grand art. Susciter tendresse et amour pour l'art gothique, la grandiose ambition de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Et dans l'ouvrage, cet attachement, tant désiré par l'auteur, est symbolisé par la relation entre le sonneur de cloche Quasimodo et la cathédrale. Nous sommes au chapitre 3 du livre 4e. Or, en 1482, Quasimodo avait grandi. Il était devenu, depuis plusieurs années, sonneur de cloches de Notre-Dame, grâce à son père adoptif, Claude Frollo. Avec le temps, il s'était formé je ne sais quel lien intime qui unissait le sonneur à l'église. Séparé à jamais du monde, le pauvre malheureux était accoutumé à ne rien voir dans ce monde au-delà des religieuses murailles qu'il avait recueillies à leur ombre. Notre-Dame avait été successivement pour lui, selon qu'il grandissait et se développait, l'œuf, le nid, la maison, la patrie, l'univers. Et lorsque, tout petit encore, il se traînait sous les ténèbres de ses voûtes, il semblait, avec sa face humaine et sa membrure bestiale, le reptile naturel de cette dalle humide et sombre. Plus tard, la première fois qu'il s'accrocha machinalement à la corde des tours, qu'il s'y pendit et qu'il mit la cloche en branle, cela fit à Claude l'effet d'un enfant dont la langue se délie et qui commence à parler. Alors, cher auditeur, que tu ailles ou non ce week-end visiter nos monuments exceptionnellement ouverts à tous, prends bien soin de toi et je te dis à très vite.
Merci Vincent. Et c'est l'heure de faire une deuxième pause musicale avec un titre issu du quiz de Kevin.
Eh bien, je vous propose Henri Salvador, une chanson douce.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Chanson douce pour tous les petits enfants. joli conte que voilà, la biche en femme se changea, la 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux, la même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
Henri Salvador, une chanson douce.
Et on termine par un mot de politique, le moins drôle. Comment se porte le tourisme en France après la crise du Covid ? Élément de réponse avec Renan.
Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. Ça vous dit c'est loin mais c'est beau.
Je vous demande de vous arrêter.
C'est la chronique politique de Renan.
Au revoir.
Ah, Paris, le Louvre, la Tour Eiffel, le Château de Versailles, Disneyland, Montmartre, le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, Marseille, Lille, les plages, les forêts, les montagnes, les lieux à visiter en France sont nombreux et c'est indéniable, le pays attire. Depuis plusieurs années, c'est même le pays le plus visité au monde avec 89,3 millions de touristes devant l'Espagne et ses 82 millions et les États-Unis achèvent ce podium avec 80 millions. De touristes, une position qui permet au secteur de peser 8% dans le produit intérieur brut en France, 2 millions d'emplois directs et indirects, un guide touristique c'est un emploi direct, un serveur dans un bar ou l'homme qui s'occupe du mini-golf près de la plage c'est un emploi indirect. Le tourisme c'est donc des lieux, du patrimoine, des entreprises et des emplois, à ne surtout pas négliger, je dirais même à bichonner vu le contexte économique français, il faut du cash. Mais alors que les frontières étaient fermées, que les lignes d'avion fortement perturbées par la crise du Covid, comment se porte le secteur après cet été qui s'est déroulé à peu près normalement ? Bon, déjà, première nouvelle, 35 millions de Français sont partis en vacances, c'est une bonne nouvelle, soit 7 sur 10 contre 60% l'année dernière. Selon les informations qu'on peut consulter sur le site du ministère de l'économie, selon l'INSEE, le climat des affaires dans l'hébergement-restauration est à un niveau historiquement élevé. Avec le retour des clients étrangers, européens et américains et un patriotisme touristique des Français, le niveau global des réservations et de la fréquentation est quasiment équivalent à celui de 2019 pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Les prix étaient en hausse, les campings ont vu leur nombre de nuitées réservées en hausse, tandis que la SNCF a connu une fréquentation, je cite, record, avec 23 millions de billets vendus pour juillet et août 2022 en hausse de 10% par rapport à 2019. Une saison est de bonnes nouvelles économiques, de bon augure, deux ans avant l'arrivée des JO de Paris 2024 et des millions de supporters qui vont débarquer du monde entier. On espère qu'à cette occasion, les forces de l'ordre et de sécurité ont réglé les petits soucis qu'ils ont eu au Stade de France, puisqu'après les scandales et les mensonges du ministère de l'Intérieur lors de la dernière finale de l'Élite des Champions, il y a eu aussi des problèmes lors du concert de Booba dernièrement. Une dizaine de personnes ont forcé les portes de sécurité des images qu'on aimerait ne pas voir lors des prochains Jeux Olympiques, alors que le monde aura les yeux braqués sur nous, que la menace du Covid plane plus ou moins toujours et que la menace terroriste reste réelle. Surtout en France, qui a déjà été meurtrie plusieurs fois par les attentats ces dernières années. En tout cas, vous l'aurez compris, notre patrimoine n'est pas seulement un fantastique clin d'œil à l'histoire de notre pays. C'est aussi un formidable atout pour faire rayonner la culture française dans le monde et un bel avantage économique. Alors vive le tourisme et vive la politique.
Merci Renan. Et avant de se quitter, on termine par un dernier titre, Kevin.
Eh ben, on va se quitter avec « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues
de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Jacques Brel, ne me quitte pas.
Et Big Bang
Station.
C'est déjà fini.
Oh non, non, non.
Aujourd'hui, c'est la Saint Glorieux. Je l'ai pas dit la semaine dernière.
Glorieuse.
Glorieuse. C'est un prénom religieux. C'est la Saint Glorieux. Voilà, Saint Glorieux. Voilà.
Et on se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite un proverbe de Émile Michel Cioran. Un patrimoine bien à nous, les heures où nous avons rien fait, ce sont elles qui nous forment, qui nous individualisent, qui nous rendent dissemblables.
Salut à toutes et à tous, et la semaine prochaine, on se retrouve pour une journée sur le bio.
Eh oui.
Bio.
Eh ben, c'est intéressant. Bio. À la semaine prochaine.
Bonne salut, semaine. Salut, salut à tous.
Bisous. Profitez-en bien.
Okay, let's stop.